vous appelez Anthony Passeron, vous êtes enseignant de lettres et d'histoire-géographie. Vous avez d'ailleurs enseigné au lycée Pierre et Marie Curie. Vous êtes né en 1983 à Nice. Vous grandissez dans l'arrière-pays niçois, dans une famille d'artisans bouchers. Un jour, dans votre famille, une personne est touchée par le VIH. Vous nous contez donc votre histoire à travers deux axes, celui de la recherche scientifique d'un côté et de l'autre, celui de votre histoire familiale. Nous avons préparé quelques questions que Madame Noblecourt va vous poser.
Alors, pourquoi avoir créé cette alternance entre les chapitres de votre histoire et ceux de l'histoire du sida ?
En fait, c'est cette idée d'alternance qui a rendu l'écriture du manuscrit possible. Avant cette idée-là, cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années, que je me demande comment raconter cette histoire de jeune homme toxicomane qui va contracter une maladie inconnue. Et je me rappelle très bien du jour où j'ai eu cette idée-là, c'est parce que pour essayer de raconter avec précision ce qu'était la maladie, je me documente dans des archives scientifiques, et là je découvre une autre histoire qui me semble elle aussi éminemment romanesque, la découverte et l'épopée scientifique. Pour découvrir le virus et la maladie. Je me rappelle très bien, c'était un matin du printemps 2018 et j'étais dans la salle des profs du lycée Curie. Donc je me rappelle très bien du jour où j'ai cette idée-là. Je ne me mets pas à écrire parce que je vais en cours, mais je me rappelle d'avoir cette idée et de me dire « Ok, si on fait comme ça, peut-être que je suis capable d'écrire un manuscrit. » Et c'est cette idée-là qui la rend possible.
Donc, question d'élève, je m'interroge sur ce qui vous a poussé à écrire. Tout au long de ma lecture, j'ai cherché votre détonateur.
Il n'est pas mentionné clairement. Enfin, il est mentionné, en fait, si. Je vais me contredire, pardon. Il est mentionné clairement dans le prologue, le détonateur, même s'il est mentionné de manière assez longue et complexe. Mais le vrai détonateur de l'écriture, c'est le besoin d'être capable de raconter une histoire personnelle et une histoire que personne dans ma famille n'est en mesure de raconter. Parce que j'ai l'impression que ma famille n'a pas survécu à cette épreuve, dans le sens où elle n'a pas réussi à raconter cette histoire. Et j'avais l'impression d'un traumatisme qui perdurerait jusqu'à ce qu'on soit capable de la raconter pour la regarder en face. C'est ça le vrai détonateur de l'écriture.
Alors du coup, c'est lié. Ce roman a-t-il eu la dimension cathartique que vous attendiez ? Ou a-t-il éveillé ou causé autre chose ?
Ça serait beaucoup demandé à un roman, parce que si vous connaissiez mon degré de névrose et le degré de névrose dans ma famille, vous réaliseriez qu'il ne s'agit pas d'écrire un livre pour tout régler. Par contre, il a permis à l'enfant que j'étais et que je traîne toujours en moi de regarder cette histoire différemment et de moins la subir. Puisqu'à partir du moment où c'est moi qui raconte l'histoire, c'est quand même une prise de pouvoir sur des événements qu'on a subis. La parole, c'est quand même ça, et l'écriture encore plus. Donc j'ai repris un peu en main un passé pour lui donner du sens, parce qu'à cause du tabou, cette histoire n'avait aucun sens. Et intégrer ma famille dans l'histoire collective de l'apparition du sida et de la lutte contre le sida, c'est aussi redonner du sens à une tragédie. Et dans cette mesure-là, il a quand même eu cet effet cathartique et bénéfique. Il y a des membres de la famille qui, grâce à la lecture de ce livre, sont aujourd'hui capables très timidement et très modestement de partager leurs souvenirs, même si ça reste très furtif. Et il y a d'autres membres de la famille qui sont absolument scandalisés que j'ai brisé ce tabou. Mais encore une fois, quand on décide de briser un tabou, il faut s'attendre à ce genre de réaction. Et finalement, leur colère, même si elle est relative, je ne dis pas ça par provocation, mais elle montre aussi que j'ai atteint en partie le but que je m'étais fixé.
Donc, petit clin d'œil à mes élèves, crise personnelle, crise familiale chez Lagarce, on peut connecter quand même avec...
Oh, Lagarce, c'est magnifique, on en reparlera.
Ah, génial. Est-ce que votre métier de prof de lettres et histoire vous a permis de décrypter la littérature scientifique au point de la rendre abordable au public ?
Il me semble que c'est un avantage. J'avais deux avantages de ce point de vue-là. Le premier, c'est d'être enseignant. Et peut-être même d'être enseignant en lycée professionnel, parce que c'est pas... Et à Curie, évidemment.
C'est ça, chez nous.
Mais en lycée professionnel, mais aussi en lycée général, le travail de l'enseignant, c'est quand même de prendre un savoir qui est complexe pour essayer de le transmettre dans un langage qui va le rendre intelligible. Et plus le niveau des élèves est faible, plus ce travail-là est important. Donc ça a quand même été 15 ans de ma vie de rendre intelligible un savoir scientifique et complexe, du moins un savoir universitaire. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et quelque chose d'autre qui m'a aidé, c'est aussi le fait que je ne sois pas de formation scientifique et encore moins médicale. Parce que j'avais remarqué chez les médecins une grande incapacité à se mettre à la place de l'interlocuteur du néophyte. Il me semble que le fait de ne rien connaître à l'infectiologie et à la virologie m'a obligé à déjà essayer de comprendre les choses moi-même et à déjà de faire un premier travail. Et c'est vrai que mon expérience en lycée pro m'a aussi aidé parce que je me disais, c'est très simple, le degré de compréhension que tu dois atteindre, c'est qu'un élève de lycée pro doit comprendre ce que tu racontes, même dans les chapitres scientifiques. Donc ça, ça a quand même été un objectif d'écriture.
Combien de temps avez-vous mis pour écrire votre roman ? Et avez-vous une anecdote à partager avec nous quant à la rédaction ?
Alors, je l'ai dit, je commence la rédaction à proprement parler à partir de, vraisemblablement, du printemps 2018. Vraisemblablement, ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'en parle autour de moi, que je me dis que cette histoire me semble intéressante et qu'elle pourrait faire l'objet d'un roman. La première version du manuscrit va s'achever au printemps 2020. Et là, je trouve une maison d'édition qui me dit « Ok, on y va ». Mais cette maison d'édition-là me demande de retravailler mon texte pendant encore 1 an et demi. Au final, je pense qu'on sera aux alentours de 5 à 6 ans de maturation puis d'écriture. Donc c'est un travail extrêmement long. Dans les anecdotes, j'ai une anecdote qui est peut-être post... Ce qui est intéressant quand vous écrivez sur le réel, c'est que vous écrivez sur le réel pour le commenter, mais que si votre écriture aboutit, elle peut avoir un effet sur le réel. Donc on est vraiment dans une espèce de phénomène de ricochet. Je commente un réel dans un livre et qui évolue du fait de la publication d'un livre. Donc en termes de mise en abîme, c'est un peu vertigineux parfois. Et une fois dans un lycée, un élève m'a dit « Mais est-ce que vous avez découvert des choses qui auraient mérité leur place dans ce livre depuis ?» Et une fois, une femme est venue me voir, que je connaissais de vue, une femme qui a environ 65, peut-être même 70 ans, qui vit dans le village de mes parents et qui m'a dit qu'elle était amoureuse de mon oncle et qu'elle avait eu une relation secrète avec lui, qu'elle avait un mari et un enfant et que lui ne s'était pas senti capable de briser ce couple-là. Donc, il était parti à Amsterdam. Et elle était persuadée qu'elle aurait pu empêcher sa fuite à Amsterdam, sa découverte de l'héroïne, etc. Et elle était très touchée. Mais si j'avais mis cette histoire dans le livre, on m'aurait dit que c'était beaucoup trop romanesque et que c'était sans doute pas de la réalité. Alors que ce qui est intéressant dans le lien entre fiction et non-fiction, c'est qu'il ne s'agit pas que ce soit vrai pour que ce soit crédible et inversement, il ne s'agit pas que ce soit faux pour que ce soit pas crédible. Donc, c'est un dosage un peu particulier, mais ça pourrait faire l'objet d'une suite ou de quelque chose d'autre.
Et alors du coup, profitons-en, avez-vous en projet d'écrire de la fiction ou cette source dans la réalité qui plus est familiale vous inspire encore ?
Alors, il me semble que d'abord, j'écris de la non-fiction catégoriquement parce que j'ai l'impression d'être rempli d'histoires, soit des histoires que j'aurais vécues ou dont j'aurais connaissance, et qui me sont prioritaires, qui sont prioritaires dans mon ordre de publication, en fait. La publication est arrivée très tard dans ma vie, mais il ne s'agit pas de publier, on peut juste raconter une histoire qui ne sera pas publiée, peu importe la forme. Mais c'est vrai que j'ai trop d'histoires non fictionnelles à raconter pour m'atteler à la non-fiction, qui me semble un exercice beaucoup plus difficile. Et j'ai réalisé, par exemple, ça m'est arrivé une fois d'avoir une vague histoire qui serait la base d'une histoire fictionnelle. Et en fait, je voulais travailler sur la mémoire, etc., des personnages qui auraient des problématiques liées à la mémoire, mais très différentes. Et en fait, en discutant dans le cadre d'une interview sur cette question, je me suis dit, mais en fait, c'est même pas la peine d'aller chercher à inventer ces gens-là. Ils existent, ces gens, quelque part. Je peux aller voir une grand-mère qui a l'Alzheimer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, finalement, toute histoire de fiction peut être rattrapée par un biais non fictionnel, à part si vous êtes dans le fantastique et encore. Donc, je pense que je serais vraiment incapable de faire de la fiction, parce que ça demanderait un travail énorme. J'ai l'impression d'avoir déjà un travail monstrueux à raconter des histoires qui existent déjà.
L'inspiration est déjà.
Voilà.
Alors, évidemment, vous attendiez-vous à connaître ce succès et à recevoir, alors je cite, tant de prix littéraires prestigieux.
Alors, j'ai eu pas mal de prix littéraires, c'est vrai. Après, il faut savoir qu'il y a énormément de prix littéraires en France. Moi, ce que j'ai eu surtout, c'est des prix littéraires de lecteurs, donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu un prix parisien qu'on appelle le prix Vépler, qui, en dehors du périphérique, ne dit plus rien à personne. Mais peu importe, c'est un prix assez regardé, parce que c'est un prix avec un jury de journalistes et de libraires, un prix tournant. Et il fait partie des prix qui ne se sont pas totalement fourvoyés. Donc, ça reste un prix très regardé, et ça a été très, très agréable de le recevoir. Non, moi, je ne m'attendais à rien du tout. Je ne m'attendais pas à être publié, même si j'ai tout fait pour l'être. J'ai vraiment travaillé dans ce but en disant je veux atteindre une publication. Et non, je ne m'y attendais pas. La seule chose que je demandais à mon livre, c'est d'avoir un succès suffisant pour avoir le droit d'en écrire un deuxième. Secrètement, j'aurais bien aimé mettre mon travail d'enseignant en pause. J'aurais bien aimé me consacrer davantage à la littérature ou du moins à l'écriture. Mais ça, c'était absolument pas prévu. Et même aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris ce qui m'arrive. Je pense que là, c'est en revenant au lycée Curie que je réalise que je n'y suis plus. Mais dans mon quotidien, j'ai l'impression que tout le monde n'est jamais, que personne n'est retourné à Curie non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je viens à Curie et je retrouve les enseignants, je retrouve les documentalistes et je fais, ah, mais vous venez toujours, vous? C'est très bizarre. Donc je pense que je réaliserai peut-être quand je sortirai un second roman, si je rencontre pas le même succès, je vais dire, ah, mais en fait, ça marche pas à tous les coups. Donc peut-être que là, je réaliserai la chance qui a été la nôtre sur le premier.
Alors, vous avez enseigné ici, donc on l'a dit plusieurs fois. Quel effet cela vous fait-il que notre professeur propose votre livre au bac? Attention, on continue. Que certains d'entre nous aient choisi de le présenter à l'examen? Et alors là, histoire de simplifier la question, que répond l'homme? Que répond l'ancien prof? Et que répondrait l'enfant?
Oh là là. Ah. Bah déjà, les trois, ils diraient merci, en fait, je pense. Les trois, ils diraient oh là là, en fait, parce que cette prolongation de l'écriture était absolument pas prévisible et même de toute façon pour un anxieux pathologique comme moi était absolument pas envisageable. Donc c'est un grand honneur qui nous est fait aussi bien à l'homme, à l'enfant qu'à l'auteur ou au prof de pouvoir être lu et être lu dans un cadre scolaire pour un ancien enseignant, c'est d'autant plus valorisant. Surtout qu'il y a quand même dans ce travail d'écriture une grande attention qui est laissée, sans mauvais jeu de mots encore que, à la transmission. Et pour moi, il était important que cette histoire touche les jeunes générations parce que je voulais transmettre un patrimoine qui est celui de la lutte contre le sida qui a plutôt tendance à se perdre ces dernières années et aussi montrer aux élèves que je voulais un peu désacraliser l'image de l'écrivain parce qu'on est dans un pays qui accorde une grande place à la littérature et qu'on a vite fait de faire de l'écrivain une sorte de statut du commandeur inaccessible et que si moi-même j'y suis parvenu, c'est que vraiment tout le monde peut le faire, quoi. Je veux dire que j'ai à cœur de montrer à des élèves que on a tous des choses à dire et que tous on peut tricoter comme ça dans l'incurable en essayant de trouver la meilleure manière de compter des choses intimes qui pourraient avoir une dimension collective. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une grande satisfaction.
Alors, ma question, j'avoue, vous, donc, qui avez enseigné la littérature, qui avez nécessairement aimé la littérature, quelles sont vos sources d'inspiration? Quels sont les modèles qui vous ont accompagné pendant l'écriture ou la construction?
C'est une question assez épineuse, je ne dis pas ça pour la contourner parce que je vais y répondre, mais c'est très paradoxal parce qu'il ne s'agit pas d'aimer un auteur pour que cet auteur vous donne envie d'écrire. Vous ne refermez pas Victor Hugo ou Louis-Ferdinand Céline en vous disant « je vais faire la même chose ». Ça, c'est plutôt des auteurs extrêmement brillants qui vont plutôt avoir tendance à vous décourager. Et ce qui m'intéressait, c'était de trouver des auteurs qui m'encouragent. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'admiration pour des auteurs qui m'encouragent. Mais parmi ceux qui m'ont vraiment donné envie, quoi, qui m'ont fait me dire « Ah ouais, ça, j'ai envie de le faire ». Alors, il y a quand même une autre autrice qui est quand même assez monumentale, c'est Marguerite Duras. Donc là, on est dans un entre-deux, quoi. Marguerite Duras, ça m'a donné envie d'écrire, mais elle écrit tellement bien quand même que, bon, on ne sait pas si c'est la peine de s'y mettre. Et c'est plus des auteurs contemporains qui sont d'ailleurs plus jeunes que moi pour certains. Je pense à Édouard Louis, je pense à Constance Debré. Plus généralement, depuis qu'elle a le prix Nobel, elle est quand même revenue sur le devant de la scène, c'est Annie Ernaux. C'est quand même des auteurs qui, dans une langue extrêmement simple, alors ça touche à la question du transfuge de classe, etc. C'est vraiment dans leur... presque dans leur domaine littéraire que l'écriture la plus accessible est consacrée. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'est qu'en les lisant, grâce à l'accessibilité de leur langue, on découvre qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une langue soutenue, on découvre qu'il s'agit de faire passer une émotion et faire passer des sensations extrêmement complexes et que tout ça est accessible avec une langue très simple. Et donc là, ça m'a vraiment, c'est vraiment eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'utilise souvent l'image, je dis souvent que c'est des écrivains qui n'ont pas refermé la porte derrière eux. Et vraiment, c'est eux qui m'ont donné l'impression que j'avais des choses à dire. Et quand même, une des grandes forces de l'écriture de ces trois-là, on pourrait rajouter Didier Ribon, mais plein d'autres, hein, je pense à Virginie Linhart. J'essaie d'élargir parce que sinon, on reste toujours dans le triangle Ribon, Louis, Ernaud et on n'en sort plus. Donc il faut vraiment trouver des portes de sortie. Mais c'est vraiment des auteurs qui nous donnent, qui, par l'interrogation qu'ils font de leur expérience de vie, nous font réaliser, nous, à nous lecteurs, que nous avons aussi des choses à raconter. Et ça, c'est quand même très particulier parce qu'ils ont chacun et chacune des vies souvent très différentes de la nôtre, mais on se rend compte qu'ils ont des tensions communes qui nous donnent envie d'écrire. Je ne sais pas si c'était...
Ah si, si, très... Alors, juste une petite précision, les émotions passent merveilleusement, puisque que ce soit une certaine jeune collègue d'histoire-géographie ou Madame Adamovic, c'est justement comme ça qu'elles m'ont fait connaître votre roman, par la puissance de l'émotion qu'on y ressentait.
Ah ouais, j'ai bien fait de venir.
Il fallait le dire, merci. Quand même. Et alors, la petite dernière, si vous deviez employer un mot... Alors, précision, voir une phrase, si vraiment c'est impossible, pour conquérir le cœur de potentiels lecteurs. Que choisiriez-vous ?
C'est compliqué parce que, je vais essayer d'aller très vite, mais on est quand même sur un livre sur le sida, en fait. Et moi, j'ai vu beaucoup de lecteurs très intéressés. Oh là là, c'est une histoire familiale, il y a une épopée scientifique. Et dès qu'on leur dit, c'est quand même une histoire de sida, les gens reposent le livre. Et finalement, le petit miracle de ce livre, c'est qu'il s'est vendu malgré ce thème-là, qui est clairement pas un thème très prescripteur, quoi. Et une de mes grandes fiertés, c'est de dire oui, en fait, j'ai écrit un livre sur le sida et on a réussi à intéresser les gens parce qu'il ne s'agit pas justement de catégoriser un livre. C'est un livre sur le sida et sur ce que le sida a fait, non pas à des corps seulement, mais à toute une société tout autour, quoi. Donc c'était une réponse super longue, désolé.
Non, pas du tout. Mais alors, une toute petite dernière, oui. Vraiment conclusion. Vous dites souvent « on » ou « nous » en parlant du livre.
Oui, alors d'abord, ça vient du fait que je suis né jumeau. Donc moi, je ne suis pas « je », en fait. Je suis « deux » en permanence, même si mon frère est au travail actuellement, il n'est pas là. Donc j'ai beaucoup de mal avec le singulier en général, déjà, premièrement. Ce n'est pas du tout une fausse modestie, etc., parce que je peux avoir le melon moi aussi, donc il n'y a aucun problème. Et accessoirement, c'est parce que vraiment, ce livre, il a été refusé par plusieurs éditeurs. Il y a un petit éditeur qui, après, a été racheté par une plus grande maison qui lui donne des moyens vraiment conséquents. Mais en termes de connaissance et de notoriété, c'est un petit éditeur qui a accepté ce livre au moment où personne n'en voulait, et c'est une équipe de 4 ou 5 personnes, si on met les attachés de presse, les correcteurs et les éditeurs. Et pour moi, c'est vraiment, je l'ai vécu comme une aventure collective. Donc vraiment, le travail d'écriture, je dis toujours « je », mais dès qu'on parle de prix littéraire, de réception, d'aventure éditoriale, je dis « nous » ou « on », c'est vrai.
D'accord. Merci beaucoup.
Mais merci infiniment, c'était très agréable de revenir à Curie.